Il est 8h42.
France Inter, le 7-9, intervenu.
Au 01 45 24 7000, Cédric nous appelle de l'Hérault. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà, bonjour. Voilà, je voulais m'adresser.
Bonjour monsieur.
Bonjour Benoît Hamon. Je voulais m'adresser directement à vous. Voilà, moi, bon, alors personnellement, j'ai voté blanc, moi, aux deux tours, hein, au premier et au deuxième tour, parce que, voilà, je pense qu'il y a effectivement une résistance à amener à l'image, enfin, à la politique française telle qu'elle est, dans son renouvellement, puisqu'il y a un renouvellement qui se pose.
Même au premier tour, personne ne se rapprocher de vos vues ou de vos envies, Cédric?
Non, bah si, Jean-Luc Mélenchon, mais c'est-à-dire que je l'envisage, moi, plus Premier ministre que président, en fait. Ah. Voilà, je trouve qu'il a plus une aura à être Premier ministre qu'à être président. Donc c'est pour ça que j'ai voté blanc aux deux tours, ne craignant pas que Marine Le Pen puisse passer et obtenir ce poste de présidentiable. Mais voilà, en tout cas, je tenais, moi, à participer à ce mouvement des insoumis, mais donc insoumis total, c'est-à-dire que je ne suis partisan de personne.
Oui. Insoumis au processus électoral aussi. Alors une question, voilà. Cédric.
Et du coup, voilà, je voulais savoir si Benoît Hamon, au vu de ses résultats au premier tour et de la situation du Parti Socialiste, il envisageait de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon et des forces de gauche insoumises en vue d'un regroupement, d'une union des gauches républicaines, sociales et solidaires, en fait, de manière à ce que il puisse y avoir effectivement qui représente du coup la deuxième force, la première force d'opposition, puisque on est devant on est devant le Front National, et que c'est une force qui doit compter. Et du coup, est-ce que Benoît Hamon compte rejoindre ce mouvement-là pour pouvoir amener effectivement au Parlement une opposition à Emmanuel Macron, qui n'empêchera pas l'entrée dans l'Europe telle qu'il l'envisage et telle que je ne souhaiterais pas qu'elle puisse se faire.
Merci. Et voilà. Oui. Merci Cédric. Benoît Hamon.
Merci monsieur. En tout cas, ce que je veux dire à vos auditeurs et aux électeurs français, aux Français, c'est que il y a un scénario là tout à fait crédible qui pourrait réduire la gauche dans toutes ses composantes. La gauche de M. Mélenchon, les communistes, les écologistes et les socialistes, a une poignée de députés. Ce qui voudrait donc dire que la seule parole que l'on entendrait à l'Assemblée nationale pour défendre parfois les services publics et les travailleurs, ce serait celle du Front National, qui a décidé de faire de cette question sociale une question centrale de son discours politique. Là où la droite, elle, accompagnera probablement un bon nombre des réformes économiques et sociales.
Et ce scénario est en train de se mettre en place, puisque chacun part désuni.
Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai appelé à ce que toutes les formations de gauche se parlent et qu'on cherche le rassemblement à l'occasion de ces élections législatives. Oui. Et je le dis à ma propre formation politique, je le dis à toutes les composantes, mais j'observe que hier, le Parti communiste s'est vu refuser un accord par Jean-Luc Mélenchon, alors que le Parti communiste a fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et je redis, nous sommes dans un moment politique particulier où finalement la redistribution des cartes politiques se fait autour de personnes et plus véritablement autour de projets politiques collectifs, de l'intelligence collective. Nous avons un mouvement, celui de du président de la République, En Marche, dont les initiales sont celles du président de la République lui-même, quand même assez incroyable, qui décide de ses candidats, non pas par vote, par délibération collective, par exercice démocratique, mais en désignant par un logiciel avec un comité.
C'est pas lui qui désigne.
Ça reste à vérifier, si vous voulez bien, quand on est dans un mouvement dans lequel il y a un chef et derrière,
la façon dont c'est annoncé. Après,
oui, voilà. Mais nous avons ensuite le mouvement autour de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je respecte d'ailleurs les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais qui est aussi très organisé autour d'une personne. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, je ne crois pas en tout cas, choisir la voie qui consiste à imaginer après des élections présidentielles où finalement la logique du débat politique s'est effacée derrière la logique du vote utile. Il faut que le débat d'idées reprenne le dessus, et pour cela, que nous ayons le souci de nous parler et de nous rassembler.
Vous allez faire quoi, Benoît Hamon? Parce que là, écoutez, la France insoumise ne s'accordera pas avec les communistes.
Mais je vais parler, je vais continuer
elle
à
ne
faire
s'accordera pas avec les écologistes non plus.
Je vais continuer à faire ce que je vais continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui continuer à marteler que, en dehors du rassemblement, il n'y a aucune perspective pour que la gauche pèse. Et il y a un risque certain qu'il n'y ait quasiment aucun député de gauche. Ce qui veut dire que cette parole, qui pourrait être celle des précieuses de députés de gauche pour défendre le droit du travail, promouvoir la transition écologique, revendiquer que demain la construction européenne se fasse sur un modèle qui soit beaucoup plus solidaire, refuser le service militaire obligatoire pour les jeunes. Ou qui fera entendre cette parole ? Personne, sinon peut-être le Front National, ce qui serait la pire des choses. Et moi, je pense que je me tiens à distance d'une stratégie qui pourrait être celle de M. Mélenchon, qui veut ensevelir finalement tout ce qu'il y a entre lui et M. Macron, celle de M. Macron qui vise, lui, à se débarrasser de toute forme d'opposition
du monde ancien,
de gauche crédible.
Comme disent les macronistes.
Oui,
Vous faites partie du monde ancien.
Je crains que les idées libérales appartiennent à ce monde ancien. Je pense qu'il faut s'attacher moins à regarder les figures que les projets politiques. Je ne crois pas que ce soit très moderne aujourd'hui de supprimer l'ISF pour ceux qui ont un portefeuille financier. Je ne crois pas que ce soit très moderne de faciliter le licenciement de ceux qui aujourd'hui gagnent peu à leur travail. Je ne crois pas que ce soit moderne de rétablir le service militaire obligatoire parce qu'on constate qu'aujourd'hui il sort des jeunes du système éducatif qui sont des jeunes en déshérence. Je ne crois pas que tout cela soit moderne. L'idée que je me fais de la modernité, c'est de penser les mutations du travail, parce qu'elles sont à l'œuvre. C'est de penser l'évolution de notre modèle de production, parce qu'aujourd'hui, il se fait au prix d'une formule insensée qui pense nos ressources naturelles inépuisables et la planète invulnérable, ce qui n'est pas le cas. Voilà ce que je crois moderne. Et je me bats pour cela, et je le dis aux électeurs de gauche. Oui, vous devez avoir conscience que si vous ne choisissez pas des candidats qui peuvent aujourd'hui porter ce rassemblement, nous n'aurons pas de députés de gauche à l'Assemblée nationale, ou si peu nombreux qu'ils ne pèseront pas. Et c'est ce risque-là que moi je vois poindre, et je le redis à tous les électeurs qu'ils aient choisi Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou ma candidature, il y a impérieuse nécessité à nous retrouver et à nous rassembler.
Ah, vous incluez la candidature de...
Les électeurs
de Macron.
Mais il y a des électeurs de gauche qui ont voté Emmanuel Macron. Oui, il y a des électeurs de gauche qui ont voté Emmanuel Macron, évidemment. Et je serais bien sot de l'ignorer. Est-ce que pour autant c'est une adhésion à son projet? Je ne le crois pas. Je pense, hélas, que dans la Ve République, on a une occasion de voter et de peser sur le destin de la nation tous les 5 ans. Ouais. Et c'est dans cette élection-là qu'on choisit le vote utile plutôt que le vote sur ses idées. Parce que les stratégies d'opinion prennent le dessus sur le débat démocratique. Ben je le regrette, mais c'est ainsi. C'est la logique de nos institutions. Et c'est ce qui m'amène toujours à défendre l'idée selon laquelle il faut passer à une 6e République.
Dominique nous appelle de Toulouse. Bonjour Dominique.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Eh ben, je fais justement partie des électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui se reconnaissent absolument pas dans ton projet, Benoît. Je te tutoie parce que je suis militant également socialiste. Et en fait, je vais pas retrouver dans ton projet et dans ton positionnement la seconde gauche, les idées portées par la CFDT, par Terra Nova, par Lionel Jospin et Michel Rocard qui ont porté haut ces idées, que je ne retrouve absolument pas dans les tiennes. Les appels incessants à se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon ne sont absolument pas dans le logiciel socialiste que j'ai toujours accompagné et pour lequel je milite depuis longtemps. Donc très déçu, et évidemment, je continuerai malheureusement à être poussé vers Emmanuel Macron par le positionnement du Parti Socialiste et par son candidat.
Merci Dominique pour cet appel. Benoît Hamon.
C'est marrant parce que je pense que Michel Rocard n'aurait jamais parlé comme cela. Il aurait parlé idée d'abord. Parce que la deuxième gauche, c'était pas une stratégie. C'était pas le refus du Rassemblement de la Gauche. Michel Rocard n'a jamais été l'adversaire du Rassemblement de la Gauche. Au contraire, il a toujours promu le Rassemblement de la Gauche. Oui. Première clarification.
Il n'y a pas que des idées sur la table, deuxième... il y a aussi des menaces d'exclusion. Vous l'avez entendu ces derniers jours aussi.
L'essentiel, c'est quoi? C'est est-ce qu'aujourd'hui, nous nous contentons de regarder l'évolution du travail sans rien faire? Le fait que demain, il faudra financer notre protection sociale et qu'il faudra penser des financements nouveaux. Que la transition écologique, elle est au cœur, justement, d'un modèle de développement qui intègre l'homme et la planète. Toutes ces idées-là sont sont dans la tradition de la deuxième gauche. Et je trouve assez finalement assez triste que on se revendique de la deuxième gauche et qu'on en oublie son patrimoine culturel, politique, intellectuel. J'étais très honoré, moi, que des grandes figures qui appartiennent à la deuxième gauche me soutiennent lors de cette campagne présidentielle, que des Patrick Vivray, que des Claude Alfandéry se soient engagés à mes côtés, des hommes et des femmes qui ont construit l'économie sociale et solidaire, que des grands intellectuels aient fait le choix justement d'un projet qui était un projet innovant. On l'a dit.
Mais on peut en citer d'autres de la même famille qui ont soutenu Emmanuel Macron aussi pendant cette campagne.
Mais je ne conteste pas cela. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas qu'une affaire d'étiquette. C'est que nous sommes devant aujourd'hui une tâche qui est bien plus importante que de jeter des noms, Terra Nova, la CFDT. La CFDT, elle a été traversée par des débats passionnants sur la question du revenu universel. Et moi, j'ai écouté ce qui se passait dans ce syndicat aussi pour voir de quelle manière, eh bien, ce nouveau rapport au travail pouvait évoluer. Tous ces sujets sont des sujets pour les années à venir. Soit on s'en empare, et on s'en empare en ayant le souci de rassembler la gauche, soit on pense que le ni droite ni gauche peut fonctionner. Mais j'ai du mal à croire, objectivement, que ce soit cette perspective-là qui permette au pays de se redresser. Moi, je crois que la gauche existe encore et c'est même heureux. Et j'insisterai sur un dernier point. Si on pense que le clivage droite-gauche n'existe plus, eh bien, on en viendra. Ce sont des travaux remarquables, d'ailleurs, d'une philosophe qui est une philosophe belge, Chantal Mouffe, dont je partage la réflexion là-dessus.
Qui dit qui a beaucoup inspiré Jean-Luc Mélenchon.
Mais pas que Jean-Luc Mélenchon. Mais faut arrêter. Elle inspire celles et ceux qui, aujourd'hui, s'intéressent à cette indifférenciation entre la gauche et la droite.
Elle s'est montrée pendant cette campagne à ses côtés.
Oui, d'accord, mais elle peut inspirer bien au-delà. Et elle inspire au-delà de la France. Elle prétend aujourd'hui, je trouve son analyse intéressante, que s'il n'y a plus de clivage droite-gauche, si justement on s'en débarrasse, ce qu'est tenté de faire parfois Jean-Luc Mélenchon, s'il substitue un clivage moral entre ce qui est bien et ce qui est mal, le vrai et le faux, le faux, le mensonge et la vérité. Moi, je ne parle pas au nom de la vérité. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, quand il est en désaccord avec moi, ment. Je ne pense pas que François Fillon ment. Je pense qu'il propose une option différente. Et je me refuse de substituer à un clivage politique droite-gauche un clivage moral. Parce que si c'est cela qui demain structure la vie politique française, que se passera-t-il ? Nous n'aurons plus en face de nous des adversaires dans le cadre d'institutions démocratiques, nous aurons des ennemis. Et je m'y refuse. C'est la raison pour laquelle je revendique appartenir à une famille politique, je revendique la gauche, je revendique défendre des classes sociales en particulier, les classes populaires et les classes moyennes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts que d'autres.
Et c'est la raison pour laquelle j'assume cela. Et au sein du Parti Socialiste, Benoît Hamon, on a beaucoup de questions là-dessus.
Mais
au sein
du Parti Socialiste, moi, c'est ma famille politique aujourd'hui. J'entends ce qui se passe et moi, je soutiendrai les candidats de ma famille politique aux élections législatives, condition qu'ils ne soient pas des candidats qui s'inscrivent dans la majorité présidentielle, dont je pense qu'elle n'a aujourd'hui guère de chance de répondre à ce qu'est la tâche historique de la gauche, qui est de permettre aux hommes et aux femmes de vivre mieux, de s'épanouir et de s'émanciper. Mais je vais plus loin. Moi, je ne vais pas me contenter de cela. En juillet, le 1er juillet, je lancerai un mouvement large qui s'adressera aux hommes et aux femmes de gauche, citoyens, pour être en situation de se retrouver, de penser les suites que nous pouvons donner à ce travail que nous avons commencé lors de la campagne présidentielle, travailler sur ces idées nouvelles. C'est un mouvement qui est un mouvement transpartisan, le 1er juillet, que je lancerai, et qui se nourrira du travail des intellectuels, de cette innovation citoyenne et démocratique que nous avons mis en œuvre pendant la campagne présidentielle. Je pense qu'il faut que la gauche se régénère, qu'il y ait des lieux dans lesquels elle travaille, elle vive, au-delà des partis politiques.
Transpartisan, c'est-à-dire avec des...
J'inviterai des hommes et des femmes qui appartiennent aux partis politiques, qui n'y appartiennent pas. Je les inviterai à continuer ce travail indispensable pour reconstruire la gauche. Aujourd'hui, on peut appartenir aux écologistes, aux partis communistes, se reconnaître dans différentes candidatures et avoir envie de travailler ensemble. Puisque les partis politiques... Non, je n'ai pas de nom, mais
y compris les marcheurs et les insoumis aussi, non ?
Toutes celles et ceux qui veulent aujourd'hui contribuer à ce que la gauche renaisse. Nous avons besoin de cette renaissance-là et elle ne pourra se faire qu'à partir du sol fécond qui est celui des idées, de l'innovation sociale, citoyenne et écologique et du terrain.
Vous quittez le PS ou pas ?
Non, je quitte pas le Parti Socialiste, je suis membre du Parti Socialiste. Il ne manquerait plus que le candidat du Parti Socialiste...
C'est un mouvement en plus, c'est pas un parti.
Est-ce que je dois rappeler que j'ai été choisi par les primaires, par les citoyens, qu'on considérait que mon projet politique était le meilleur. Mais voilà, mais était le meilleur. C'est au nom de cela que j'ai fait campagne. Nous avons eu le résultat, et j'ai eu un résultat qui est un résultat qui pèse aujourd'hui et qui m'oblige à essayer de penser justement la façon dont on peut faire
si
renaître la gauche.
Voilà.
C'est un mouvement qui sera un mouvement politique qui ira au-delà des partis, parce que je pense aujourd'hui qu'il faut de l'horizontalité, et que puisque les partis politiques ne veulent pas engager ce dialogue entre eux, il me semble qu'il faut l'organiser ailleurs.
On doit marquer une pause de 30 secondes, Benoît Hamon, avant de retrouver Nicole Ferroni.